Chers amis des cellules, bonjour et bonjour tout particulièrement à ceux qui découvrent les cellules en ce temps de l'Avent. Nous allons réfléchir aujourd'hui sur la première partie du texte de l'Évangile que nous entendrons dimanche prochain, troisième dimanche de l'Avent, et qui est l'un de ces textes magnifiques de l'Écriture parce qu'il n'évacue pas les difficultés, il prend de face une question particulièrement redoutable. Jésus est-il vraiment le Messie ou devons-nous en attendre un autre? Pouvons-nous attendre, espérer notre salut de Jésus? C'est quand même la question redoutable qui vient à l'esprit de toute personne dont la prière ne semble pas exaucée. Mais commençons par lire le texte. Nous sommes au chapitre 11 de saint Matthieu et nous allons lire les premiers versets. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Le texte se poursuit, mais nous nous concentrerons sur l'examen de cet extrait. Quelques éléments de contexte. Jean-Baptiste, qui autrefois prêchait sur les bords du Jourdain à baptême de conversion, a été arrêté par Hérode Antipas, le fils d'Hérode le Grand, qui a autorité sur la Terre Sainte à cette époque-là. Jean-Baptiste, en effet, lui reprochait son mariage illégitime avec Hérodiade, qui fut la femme de son demi-frère Hérode Philippe, si bien qu'il avait été emprisonné à Macéronte, une forteresse reconstruite par Hérode le Grand sur les bords de la mer Morte. À partir de ce moment-là, Jean-Baptiste n'a plus accès directement à l'œuvre que commence à accomplir Jésus. Autant autrefois il l'avait vu sur les bords du Jourdain, et c'est ainsi qu'il avait pu le désigner à certains de ses disciples comme l'agneau qui enlève le péché du monde, autant désormais il ne connaît de Jésus que ce qu'on lui rapporte. Or, il constate un décalage entre ce à quoi il s'attendait et ce qui se produit. Vous vous souvenez de l'évangile de dimanche dernier, où Jean-Baptiste annonçait que vient derrière lui un plus fort que lui, qui allait baptiser dans l'Esprit Saint et le feu. Il annonçait aussi que la hache se trouvait à la cognée des arbres, les arbres qui ne porteraient pas de bons fruits allaient être coupés et jetés au feu. Il s'attendait à voir le jugement exercé par Jésus, et exercé par Jésus dès à présent. Ce jugement de Dieu qui devait se produire devait à la fois être la sanction des méchants et la récompense des justes. Or voilà que cela ne s'est toujours pas produit, et en ce qui le concerne, il est toujours en prison. Alors la question se pose, et se pose légitimement. Es-tu le Sauveur? Es-tu celui que nous attendons? Ou faut-il en attendre un autre? La réponse de Jésus s'appuie sur l'Écriture et les signes messianiques annoncés par les prophètes. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, des morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Et de fait, c'est ce que peuvent entendre et voir les disciples de Jean-Baptiste qui sont venus jusqu'à Jésus. Ils sont témoins de l'apparition de ces signes messianiques. Ils sont témoins que ces signes messianiques sont accomplis, et donc que Jésus est bien le Messie annoncé. Jésus renvoie donc les disciples de Jean-Baptiste porter un témoignage. Ils ont vu les signes messianiques accomplis par Jésus. Il est bien celui qui devait venir. Il n'y a pas à en attendre un autre. Mais on a beau dire cela, il y a quand même une question qui se lève. Jean-Baptiste demeure en prison. Et il sera même décapité, victime de l'orgueil d'Hérode qui aura fait un serment à la légère, d'une femme qui voulait se venger d'un homme qui critiquait son mariage, d'une jeune fille qui apprend que sa beauté peut servir son ambition et ajoutera sa propre touche à l'injustice en demandant que ce soit sur un plat que la tête de Jean-Baptiste lui soit apportée. Serait-il possible que Jésus soit le sauveur, sauf de Jean-Baptiste, ou pour toute personne qui prie sans voir l'exaucement attendu, serait-il possible que Jésus soit le sauveur, sauf de moi? C'est une question redoutable. C'est une question que l'on peut avoir envie d'enfouir pour ne pas l'affronter, et pourtant c'est une question que n'évite pas l'Écriture sainte. Prenons-la donc au sérieux. On peut s'interroger, à quoi bon prier si ce n'est pas pour être exaucé? Dieu ne nous avait-il pas demandé de prier pour recevoir? Est-ce que ma prière était mauvaise? Dieu était-il indifférent à ma personne? Vous savez que c'est la question que l'on se pose, ou que se pose l'enfant par exemple qui a prié de tout son cœur pour que ses parents ne se séparent pas, et pourtant c'est ce qui est arrivé. C'est la question que se pose celui qui a prié pour son proche qui a eu un accident pour qu'il se remette et qui pourtant décède. Ma prière était-elle mauvaise? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas entendu? Est-ce que tu as seulement entendu ou écouté ma prière? Tu étais indifférent? Quand on n'ose pas prendre cette question à bras le corps, on finit par se décourager et finalement se détourner de la prière et du Seigneur. La première chose dont nous pouvons nous souvenir, c'est qu'une prière n'est jamais perdue. Une prière n'est jamais perdue, une prière n'est jamais trop loin de l'oreille de Dieu. Une prière n'est jamais perdue, mais elle peut être réorientée. Elle peut être réorientée. Comment cela? Vous vous souvenez peut-être de ce passage au chapitre 7 de l'Évangile selon saint Matthieu, les versets 9 à 11, où Jésus disait « Quel est d'entre vous l'homme auquel son fils demandera du pain et qui lui remettra une pierre, ou encore, s'il lui demande un poisson, qui lui remettra un serpent? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui prient ?» Il y avait une petite subtilité dans la parole de Jésus qu'il nous faut relever. Jésus ne dit pas que Dieu donnera exactement ce qui a été demandé, il dit qu'il donnera de bonnes choses. Donc pas forcément ce qui littéralement a été demandé, peut-être que ce sera cela, mais ce sera surtout de bonnes choses. Il peut y avoir une distinction entre les deux. Il nous faut admettre que parfois ce que nous demandons n'est pas la meilleure des choses. Parfois, ce n'est pas la meilleure des choses pour nous, ce n'est pas la meilleure des choses pour l'autre non plus. Faut-il alors s'abstenir de demander? Non, le Seigneur nous invite à demander. Il nous invite à demander à ce que nous avons discerné comme bon, et en même temps avoir cette humilité, c'est-à-dire, mais peut-être qu'il y a mieux à faire, Seigneur, et ça, tu le vois. Peut-être qu'il y a mieux à faire pour lui, pour moi, pour le salut du monde, mais en tout cas, voilà, c'était ça que je voyais, donc je te le demande, mais peut-être qu'il y avait mieux à voir, mieux à faire. Saint Paul va nous apporter un éclairage décisif dans l'Épître aux Colossiens. Au chapitre 1, verset 24, il dit ceci, « En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. » Je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. Paul ne dit pas que le Christ aurait raté une part du salut, il aurait oublié quelque chose et que donc lui, Paul, serait chargé de réparer l'oubli du Christ. Il manifeste que le corps du Christ, qui est le peuple des baptisés, est encore un peuple en conversion. Et lui, Paul, à la suite du Christ, en union au Christ, porte une part du poids de cette conversion. Parce qu'il n'est pas simple qu'un cœur se retourne, parce qu'il n'est pas simple qu'un cœur se détourne du mal, parce qu'il n'est pas simple qu'un cœur persévère dans la justice et la vérité en mettant ses pas dans les pas du Christ. Les versets qui précédaient dans l'Épître aux Colossiens manifestaient justement le salut que les Colossiens avaient reçu, tandis que Paul en supportait une partie du poids. Je cite, « à partir du verset 21, « Vous-même qui étiez devenus jadis des étrangers, des ennemis par vos pensées et vos œuvres mauvaises. » Donc voilà d'où l'on partait. Ils étaient ennemis de Dieu et de la justice. Et Paul continue, « Voici qu'à présent, le Christ vous a réconcilié dans son corps de chair, le livrant à la mort pour vous faire paraître devant lui, saint, sans tache et sans reproche. » Paul est en train de dire justement que le Christ a permis leur réconciliation en portant dans son corps justement le poids de leurs iniquités, et qu'en le portant, il les en a libérés. Paul reprend les exhortant à la persévérance dans le droit, je cite, « Il faut seulement que vous persévériez dans la foi, affermie sur des bases solides, sans vous laisser détourner de l'espérance promise par l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le ministre. » Vous voyez cette dernière phrase, « et dont moi, Paul, je suis devenu le ministre », manifeste qu'il en porte le poids avec le Christ. Mais en quoi ceci vient éclairer notre propos? On a besoin que l'on soit un petit peu plus précis. Tâchons de le faire. Le chrétien dont la prière ne semble pas exaucée. Le chrétien dont la prière semble ne pas obtenir ce qui avait été demandé est appelé à demeurer et dans la persévérance et dans l'espérance. En effet, il est appelé à participer d'une façon mystérieuse à la passion salvifique de Jésus. Jean-Baptiste est le précurseur, et il est le précurseur du Christ jusque dans la passion. Saint Paul, dans l'extrait que nous avons entendu, dit bien qu'il participe à la passion du Christ dans sa chair, qu'il en porte une partie. Et donc, lorsque nous vivrons cette douleur et cette frustration de ne pas voir notre prière exaucée ou exaucée comme nous l'aurions désiré, nous sommes appelés en fait à prolonger en nous, dans l'espérance, ce cri de douleur du Christ sur la croix. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Christ est toujours le Fils du Père, celui que le Père exauce toujours, et pourtant il porte en ce moment-là le cri de l'humanité qui a le sentiment d'être abandonnée de Dieu parce qu'elle ne voit pas le salut dans les modalités qu'elle espérait. Il y a cette chose très mystérieuse, au moment où nous pensons être le plus éloigné de Dieu parce que nous ne voyons pas notre prière exaucée comme nous l'aurions imaginé ou rêvé, eh bien voilà que nous sommes plus intimement unis au Christ sur la croix. Et si nous le vivons avec foi, eh bien nous portons un fruit de salut plus intense. Cette prière d'union au Christ dans la passion est vraiment une dimension de la prière chrétienne. C'est pour cela, par exemple, que dans la liturgie des heures, on n'a pas évacué les psaumes qui ne seraient pas des psaumes d'action de grâce. Par exemple, à la prière des complis, dernière prière avant le coucher, le vendredi soir, on prie ce psaume 87-88 qui se termine par ces paroles « Ma compagne, c'est la ténèbre ». Parce qu'au moment dit, je ne vois pas d'autre lumière. Et en même temps, en disant cela, je dis à la fois mon cri, mais je dis le cri avec les paroles que Dieu lui-même a inspirées par l'Esprit Saint. Nous entrons dans cet élément un peu paradoxal du sentiment de l'éloignement de Dieu alors que nous sommes plus intimement unis au Christ. Je voudrais évoquer une icône qui est chère à l'Église d'Orient, qui est l'icône de la déesis, ça veut dire de l'intercession. On y voit le Christ sur son trône de gloire, qui bénit le monde en portant le livre des Écritures, et à sa droite et à sa gauche, la Vierge Marie et Saint Jean-Baptiste, les mains tendues vers lui, qui en fait intercèdent pour le monde. Saint Jean-Baptiste et la Vierge Marie sont ceux qui ont partagé la passion de Jésus de façon toute particulière et avec une conscience toute particulière de ce qu'ils faisaient. D'un côté, le précurseur, donc précurseur du Christ jusque dans la passion, et de l'autre côté, celle qui est la mère des hommes et qui a enfanté dans les douleurs de la passion l'humanité nouvelle que le Christ réalisait et qu'il nous partageait. Eh bien, celui qui porte dans l'espérance et la persévérance la prière alors même qu'elle n'est pas exaucée comme ils l'auraient rêvé, prend place à leur côté. Nous aurons, quand nous vivons cela, notre place à leur côté pour le salut du monde dans l'intercession avec Jean-Baptiste et la Vierge Marie. Au jour de la venue glorieuse de Jésus, au plus tard, nous verrons le fruit de grâce, de vie, de courage que cela a porté. Nous verrons des gens s'approcher de nous pour nous dire ce que tu as porté ce jour-là dans la foi et dans la foi douloureuse. Voilà le fruit de grâce, voilà le fruit de vie qui m'a été donné, qui m'a soutenu, et je t'en remercie. Alors ayons connaissance de cette dimension de la prière qui participe au cri de Jésus dans la Passion. Publions aussi cependant les œuvres de Dieu lorsqu'il guérit, lorsqu'il relève. Écoutons ces œuvres de Dieu publiées par d'autres pour garder confiance, parce qu'il est bien le Messie annoncé. Publions cependant ce que nous voyons des œuvres de salut du Christ, de guérison, d'espérance, de retour à la vie. Entendons celles qui nous sont rapportées par d'autres, quand bien même cette guérison, cette libération ne touche pas encore immédiatement notre vie. Peut-être que pour le moment je n'ai droit qu'à une boisson vinaigrée comme le Christ dans sa passion, mais elle deviendra le vin du royaume des noces éternelles. Je vous souhaite de bons échanges.